Noël est passé et le moulin à parole ne tourne plus depuis quelque temps. Le pauvre meunier était mal en point, mais il est maintenant sur pied. Alors évidemment, on n'est plus dans le temps de l'Avent et on s'approche même du temps du carême. Mais l'explication des deux dernières antiennes O nous permettra de mieux comprendre le mystère de l'incarnation qui est au cœur de notre existence. Allons-y. Voici la sixième antienne. Ô roi des peuples et leur désiré, pierre angulaire qui fait des deux un seul, viens et sauve l'homme que tu as façonné du limon. Rappelons-nous qu'une antienne O décline un nom donné au Christ par le moyen d'un emprunt aux Écritures saintes, puis lui adresse une demande en rapport avec ce qui vient d'être dit de lui. Ici, le Christ est nommé roi des peuples. Traduction que j'ai préférée à « roi des nations », suit une formulation mystérieuse au sujet de la pierre angulaire qui fait des deux un seul et une demande que l'on comprend facilement quant à elle puisqu'elle exprime une dualité à laquelle nous sommes habitués, évoquant d'un côté la grandeur de Dieu qui est déclaré roi et de l'autre la petitesse de ceux qui sont tirés du limon ou de la vase, pourrait-on aussi traduire. Que les nations désirent la venue du Christ est une image d'Épinal lorsque l'on se figure la situation comme on se la représentait par exemple il y a 150 ans de cela, sous la forme de nations lointaines, pétries de bonnes volontés, mais errantes dans l'obscurité jusqu'à ce que leur soit révélée la lumière du salut. On trouve des échos d'une telle représentation dans cette prière du pape Léon XIII, qui n'a pas bien vieilli. La prière, pas le pape, Léon XIII, lui, il est mort. Cette prière dit « Que l'Église de Jésus-Christ accueille de nouveaux fidèles et s'agrège des royaumes entiers, afin qu'elle puisse peupler le ciel d'âmes élues pour la plus grande gloire du divin Rédempteur. » Pour s'épargner cette représentation un poil colonialiste, le catéchisme nous propose une explication plus cohérente du désir de Dieu. Celui-ci, le désir de Dieu, est inscrit dans le cœur de l'homme, car l'homme est créé par Dieu et pour Dieu. Dieu ne cesse d'attirer l'homme vers lui, et ce n'est qu'en Dieu que l'homme trouvera la vérité et le bonheur qu'il ne cesse de chercher. Catéchisme de l'Église catholique, numéro 27. Une telle explication, un peu moins exaltée que la prière expansionniste que nous venons de citer, reste tout de même difficile à croire lorsqu'on considère la multitude des désirs qui nous animent, lesquels, pour la plupart, n'ont absolument rien à voir avec l'engouement pour le divin. Cependant, si nos désirs nous éparpillent souvent vers n'importe quoi, le désir de Dieu, celui que Dieu lui-même éprouve, se tourne vers nous avec force et constance. Le catéchisme ajoute en effet, « Si l'homme peut oublier ou refuser Dieu, Dieu, lui, ne cesse d'appeler tout homme à le chercher pour qu'il vive et trouve le bonheur. Par conséquent, que se réjouisse le cœur de ceux qui cherchent Dieu ?» dit le psalmiste, car l'incarnation du Seigneur que nous avons fêtée à Noël réalise précisément la rencontre entre Dieu et l'homme et satisfait entièrement le désir qui anime Dieu à notre égard et celui qui devrait nous animer à son endroit, de façon réciproque. Cette antienne O se présente comme la plus énigmatique de toutes, sans doute parce que elle nous conduit en très peu de mots au centre le plus intime de notre relation à Dieu. Comment m'y prendre pour expliquer cela? Peut-être en commençant par dire où il me semble que l'antienne veut en venir, puis en relisant les quelques mots par lesquels elle nous y conduit. Au tout début de la jeune Église, saint Irénée de Lyon exprime le centre du mystère chrétien de la façon suivante. Telle est la raison pour laquelle le Verbe s'est fait homme et le Fils de Dieu, Fils de l'homme, c'est pour que l'homme, en entrant en communion avec le Verbe et en recevant ainsi la filiation divine, devienne Fils de Dieu. Ce que Thomas d'Aquin, près de 1000 ans plus tard, exprimait de façon encore plus serrée, le Fils unique de Dieu voulant que nous participions à sa divinité, assuma notre nature afin que lui, fait homme, fit les hommes Dieu. L'incarnation du Seigneur a pour but de faire Dieu des hommes. Faire des deux un seul, dit l'antienne, de l'homme et de Dieu, c'est ce que réalise le Christ à l'image d'une pierre angulaire. En effet, une telle pierre est certes solide au point que tout un bâtiment s'appuie sur elle, et c'est souvent en ce sens que l'on a interprété le propos de saint Pierre, qui reprend d'ailleurs cette image, première lettre de saint Pierre, chapitre 2, à Isaïe au chapitre 28. C'est sûr, l'église est bâtie sur du solide. Mais le propre d'une pierre angulaire en architecture, c'est aussi de lier deux murs ensemble. La pierre en elle-même réunissant les deux murs, l'un venant d'un côté et l'autre de l'autre. Cela dit, si l'on veut être clean théologiquement parlant, il ne faut pas penser que l'homme et Dieu se mélangent dans le Christ comme le mur de droite se mélange avec le mur de gauche dans la pierre elle-même, la pierre d'angle, qui est taillée dans un même bloc d'une seule matière. C'est la limite de la métaphore. En théologie, on dit que les deux natures humaines et divines sont jointes en une unique personne, Jésus. Elles ne sont pas confondues, ce Jésus qu'on aime, même si l'on n'est pas théologien. Celui qui a été crucifié dans la chair, notre Seigneur Jésus-Christ, est vrai Dieu, dit le second concile de Constantinople. Voilà le miracle que nous demandons à Dieu avec cette antienne eau. Du limon, de la vase dont il a façonné l'homme, insufflant en lui le souffle de vie, qu'il fasse un être divin, habitant en lui par l'esprit. L'incarnation de Dieu manifeste à la fois sa grandeur et sa miséricorde. Sa grandeur d'abord lorsque Dieu infini et éternel se fait chair dans le tout petit nourrisson de la crèche. Dieu est grand car il sait mieux que tout autre se faire tout petit et le dernier. Quant à son infinie miséricorde, voici comment sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, Edith Stein, la présente dans une méditation sur le mystère de Noël. Lors de la veillée, quand scintille l'arbre de lumière et que s'échangent les cadeaux, le désir inassouvi d'une autre lumière monte en nous jusqu'à ce que sonnent les cloches de la messe de minuit et que se renouvelle sur des autels parés de cierges et de fleurs le miracle de Noël. Et le Verbe s'est fait chair. Nous voilà parvenus à l'instant bienheureux où notre attente est comblée.